Gaziantep, frontière turco-syrienne. 11 février 2023. Manteau noir, chemise noire, visage fermé, yeux baissés, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, tente de consoler son peuple.
Je sais que les mots ne sont pas assez forts pour décrire la douleur que traverse notre pays.
Autour de lui, les hommes, le ciel, le paysage, tout est gris. 4 jours plus tôt, ici, le 6 février, à 1h17 du matin, pendant près de 120 secondes, la terre a tremblé. Puis à nouveau, 9 heures plus tard, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. La Turquie est sonnée, détruite, en deuil. Cette année 2023, le président turc avait promis qu'elle serait l'occasion d'un nouveau triomphe électoral pour marquer le centenaire de la fondation de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk. Le tremblement de terre a tout balayé. À l'aube de cette année charnière, c'est sur un champ de ruines et l'ombre de dizaines de milliers de morts que se dresse l'immense silhouette de Recep Tayyip Erdogan. Je m'appelle Claude Guibal. Erdogan, la tentation de l'Empire, épisode 1, Istanbul, aux racines de la colère.
Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var.
Tayyip Erdoğan n'est pas un démocrate de cœur.
C'est un grand homme politique, grand homme d'État, c'est évident.
Je suis grand reporter. J'ai vécu plus de 15 ans au Proche-Orient, en Égypte, la matrice de l'islam politique, terre des frères musulmans et de leurs dérives radicales, des Gamat al-Islamiyya jusqu'à Al-Qaïda. Et c'est au Caire que j'ai vu Recep Tayyip Erdogan la première fois. Ça, c'était en 2011, pendant les révolutions arabes, juste après la chute d'Hosni Moubarak. Accueilli par des milliers de personnes dans les rues. Erdogan, l'homme qui semblait capable de prouver que l'islam politique était compatible avec la démocratie. Depuis, il est partout. En Turquie, bien sûr, mais aussi en Libye, en Syrie, en Afrique. Négociateur clé entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'image de cet Erdogan des débuts, vénéré par le monde arabo-musulman, observé avec fascination par les Occidentaux, a disparu, chassé par la brutalité de la répression. Les purges, le musellement des médias, les attaques contre les Kurdes, le chantage aux réfugiés, sa valse inquiétante avec Vladimir Poutine, l'inflation qui ravage aujourd'hui la Turquie et met à genoux ses 84 millions d'habitants. Erdogan, imprévisible, incontournable, un caméléon insaisissable. 20 ans de pouvoir absolu qu'il ne compte pas lâcher. J'ai voulu comprendre ce qui s'était passé pendant ces années. Et j'ai surtout cherché à comprendre qui était en fait cet homme, cet ovni politique. Alors, j'ai fait mon sac, j'ai jeté dedans mon micro, mon enregistreur, mon passeport, et je suis parti. J'ai pris l'avion. Mais ce n'est pas en Turquie que je suis allée d'abord, mais en Allemagne, à Berlin.
Alors, qu'est-ce qu'il dit le GPS, là ? Tout droit, des barres d'immeubles, vertes et beiges, bleues, là, avec un square au pied.
L'homme que je voulais absolument aller voir là-bas s'appelle Can Dündar. C'est un des plus farouches opposants d'Erdogan, traqué par le pouvoir turc, condamné à plus de 27 ans de prison, victime d'une tentative d'assassinat. Sur les marches mêmes du palais de justice d'Istanbul, il vit en exil en Allemagne. Journaliste, écrivain, il a publié avec le dessinateur égyptien Anwar le premier tome d'une biographie de Recep Tayyip Erdogan.
Hello.
Hello.
Welcome to Berlin.
Il m'avait donné rendez-vous dans les locaux d'un collectif de journalistes d'investigation, dans une petite rue pas très loin d'Alexanderplatz. C'est lui qui m'a ouvert la porte, Cheveux gris, pull noir, lunettes.
I'm Claude Guibal. Nice to meet you.
How are you? This is corrective. Please get in.
Thank you.
Chan Dundar m'a offert un café. On s'est assis dans une petite pièce, à l'écart, la biographie d'Erdogan posée devant nous. Et bien sûr, je lui ai demandé comment on pouvait écrire avec objectivité sur son pire ennemi.
Imagine you are writing a book about someone who destroyed your life.
Imaginez, vous écrivez un livre sur quelqu'un qui a détruit votre vie, vous a chassé de votre pays, a confisqué vos biens, pris votre liberté.
Freedom, who cause a kind of family separation.
Vous a séparé de votre famille et n'a pas seulement détruit votre vie, mais aussi votre pays. Mais en même temps, vous êtes journaliste et vous devez être objectif et cacher vos sentiments. C'était difficile, mais j'ai fait des efforts pour rester journaliste. Je ne voulais pas le diaboliser ou mettre trop de sentiments là-dedans.
Erdogan, vous le décririez comment ?
A political animal who survived every kind of crisis.
Un animal politique qui a survécu à toutes sortes de crises et qui arrive à transformer toutes les crises en opportunités. Et c'est cette capacité à faire ça qui lui a permis de survivre pendant 20 ans.
He's a clever guy, not well educated, but well prepared for politics.
C'est un type intelligent. Pas très éduqué, mais bien préparé à la politique. Et il sait comment manipuler les gens. Pas seulement les masses non éduquées, mais aussi comment jouer avec les intérêts des dirigeants occidentaux. Et il sait comment interférer dans les affaires internationales. C'est très inhabituel.
Et si vous aviez trois mots pour le décrire ?
Well, hate.
La haine,
manipulation,
la manipulation
and,
et
what else?
Quoi d'autre?
I would say,
peut-être le pragmatisme.
Trois mots pour décrire Erdogan. Vous verrez par la suite, c'est ce que j'ai demandé à quasiment tous mes interlocuteurs. Mais à Chan Dundar, qui a tant enquêté sur lui, je voulais surtout demander qui était cet homme et d'où il venait.
Erdogan est né à Istanbul, dans une famille pauvre, dans des conditions très dures. Son père était un capitaine de marine. Il avait un bateau pour amener de l'eau dans les îles près d'Istanbul. On l'appelait Captain Ahmet.
Captain Ahmet.
Selon les témoins, il torturait presque son fils s'il désobéissait à ses ordres. On a souvent entendu ce genre de choses chez les dictateurs issus de conditions d'enfance dures, de milieux pauvres avec des pères autoritaires.
Poor childish conditions with tougher fathers.
Il ne résistait pas, il obéissait, très respectueux de son père.
He was very respectable to his father, but at the same time, I mean, two things were so important in his childhood. First, the father figure.
Deux choses étaient importantes pour lui, la figure du père et la religion.
That gave him this religious background, and father gave him.
Il est allé dans une école de prédicateurs qui lui a donné sa base religieuse et son père lui a appris l'obéissance et la discipline. Et mélanger discipline et islam, c'est quelque chose d'explosif quand c'est utilisé à des fins politiques.
Et le récit de Chan Dundar a continué à m'accompagner lorsque, quelques jours plus tard, j'ai pris la direction d'Istanbul, en Turquie.
Le Bosphore, là, juste en face de moi, avec la péninsule historique d'Istanbul là, qui s'avance, le palais de Topkapı, Sainte-Sophie, la fameuse corne d'or que je ne vois pas là, mais que je devine, dont on devine l'entrée là derrière.
derrière tous les bateaux là, qui se croisent dans le détroit. Et puis ces deux rives, ces deux continents qui sont face à face, l'Europe, l'Asie, avec au milieu du détroit la tour de Léandre.
In general, Turkey, in particular Istanbul, has two faces.
La Turquie et Istanbul ont deux visages, un pauvre et un riche, comme beaucoup de villes.
So he's coming from this poor Istanbul side. Kasımpaşa is the environment.
Erdogan vient de la partie pauvre. Kasımpaşa, c'est le quartier où s'installent les immigrés d'autres villes venus chercher du travail, des opportunités.
So they came from a family in the Black Sea region.
Lui vient de la mer Noire.
So this tug of war between the poor and the rich.
Cette guerre entre riches et pauvres était déjà évidente. Ces gens venus d'autres villes qu'Istanbul ont changé le visage de la ville.
Changed the face of the city. But also they were so eager.
Ils voulaient tellement avoir de nouveaux métiers, de nouvelles vies, des nouvelles maisons, etc.
And they were really so some of them were full.
Certains étaient affamés, pleins d'appétit de pouvoir.
Alors j'ai voulu aller voir.
Mais tu veux qu'on prenne un taxi là, non? Tu voulais pas qu'on prenne un taxi pour aller vers Tu crois qu'on peut les arrêter là?
Je suis partie dans la circulation. Au milieu des dolmouches et des vendeurs ambulants avec Séville, ma fixeuse. Vous venez d'entendre sa voix. Les fixeurs, pour nous, les reporters, ce sont des alliés précieux, à la fois assistants, traducteurs et portes d'entrée pour mieux comprendre leur pays. Toutes les deux, on s'est mises en route pour Kasımpaşa, le quartier où est né Recep Tayyip Erdogan. Je repensais à Can Dündar.
His father was a tough guy.
Son père était un homme très dur qui insistait pour qu'il soit éduqué, mais lui voulait être joueur de foot. Il a dû travailler beaucoup quand il était jeune car sa famille était très pauvre. Il n'était pas très bon à l'école et tout ce qu'il voulait, c'était être joueur de foot. Il rêvait d'être le Beckenbauer de la Turquie. La légende dit qu'il était un bon joueur, un buteur. On a essayé de regarder, mais c'était un peu mensonger. Il ne marquait pas tant que ça. Mais quand vous réussissez à devenir Premier ministre, on peut réécrire l'histoire. Et on l'a présenté comme un grand footballeur.
Pendant le trajet, Séville, ma fixeuse, guidait le chauffeur de taxi.
On va aller devant l'entrée principale du stade à Kasımpaşa.
Et ce stade s'appelle, je vous le donne en mille, le stade Recep Tayyip Erdogan. 13 500 places, pile à l'entrée de Kasımpaşa, où il est donc né le 26 février 1954. Kasımpaşa, que Séville et moi, on s'est mis à explorer. Mais voilà, le foot, ce n'était pas un métier pour Captain Ahmet, le très religieux père d'Erdogan. Cette passion le hérissait et dans les biographies du dirigeant turc, on raconte comment ce père a tabassé son fils qui partait jouer en cachette avec des chaussures trouées. Mais ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était qu'il reçoive l'éducation qui convenait, loin de l'enseignement laïque et occidentalisé promu par l'école publique héritée d'Atatürk.
He went to a religious school.
Erdogan est allé à l'école religieuse. Au début, il a été dans une école normale. Puis, un de ses profs l'a dirigé vers une école religieuse parce qu'il avait de bonnes notes en religion, grâce à son milieu familial. Sa famille l'y a encouragé.
Ah, c'est quoi le bâtiment, là? Comment tu prononces, là? C'est un bâtiment bleu. On est donc à Beyoğlu, à Kasımpaşa. C'est un bâtiment bleu. Et là, sur le panneau, il y a marqué quoi?
Il y a marqué Istanbul Beyoğlu, Güzelce İmam Hatip Ortaokulu, l'école secondaire İmam Hatip de Güzelce.
L'école de prédicateurs, en fait. C'est là où était Erdogan. Eh bien, quand il a quitté l'école publique, il est allé à l'école de prédicateurs, comme ça.
La formation reçue dans cet imam hatip, cette école religieuse, a eu une importance fondamentale dans la construction de Recep Tayyip Erdogan. Vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce que Can Dündar avait voulu me dire, c'est que dans la Turquie hyper laïque des années 60, faire le choix d'une éducation religieuse n'était pas anodin.
La confrontation entre la Turquie laïque et religieuse a commencé dès son enfance. Ces deux symboles sont les deux visages de la Turquie. Un pays conservateur et religieux où les masses croient en Dieu, en l'islam d'une part. Et l'autre visage, c'est-à-dire beaucoup de gens qui croient en la République, en un État laïque qui contrôle l'islam et qui essaie de le sortir du champ politique.
Islam and trying to push Islam away from politics. So this tag of war.
Et ce face-à-face résume l'histoire de la Turquie des 100 dernières années. Et Erdogan était à l'avant-garde de cette bataille.
Ça. C'est aussi quelque chose que m'a expliqué le politologue et éditeur turc Ahmet İnsel.
Il vient de cette cohorte qui a grandi dans le ressentiment parce qu'à l'époque, les écoles d'imams et prédicateurs, par l'élite laïque, par la bourgeoisie d'Istanbul, et même, je dirais, par la majorité de la jeunesse de la Turquie, étaient vraiment considérés comme des écoles d'échecs, des écoles où vont les gens qui ne peuvent pas continuer leurs études ailleurs. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce ressentiment qu'il a engrangé et qu'il ressort énormément dans sa posture anti-élite aujourd'hui, comme beaucoup de ses compagnons qu'il a placés dans les hauts lieux du pouvoir par la suite, issus de ces écoles d'imams et de prédicateurs. C'est pas un bon élève. Hein. C'est quelqu'un qui est probablement d'une intelligence rapide, mais c'est pas quelqu'un qui était brillant à son école. Il était plutôt porté par le football. Manifestement, il était un bon, il était un espoir. Et Erdogan avait, dans sa carrière de footballeur aussi, manifestement, une volonté de régenter les autres. Parce que on l'appelait chef quand il jouait dans cette équipe de la société municipale, des équipes sportives de société municipale des transports d'Istanbul. Et on dit qu'à l'époque déjà, quand il était capitaine de l'équipe, il se battait contre ses coéquipiers qui fumaient des cigarettes. Il voulait qu'ils arrêtent de fumer des cigarettes. Donc du coup, et il continue toujours aujourd'hui. Hein. C'est là-dessus, il n'a pas changé. Si vous vous présentez devant lui avec un piquet de cigarettes comme font les hommes turcs à mettre dans la poche de leur chemise, il attrape le paquet et il dit « il faut pas fumer », etc.
À l'école, la grande force de Recep Tayyip Erdogan, c'est la récitation. Et on dit que c'est là que, pour la première fois, lors d'un concours, il récite ses vers attribués au poète Ziya Gülküp, l'un des pères du nationalisme turc.
Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques. Les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats.
Ce poème, souvenez-vous-en, parce qu'il va le réciter à nouveau en public, des années plus tard, lors d'un meeting en 1997. L'armée, gardienne des valeurs laïques d'Atatürk, ne va pas du tout apprécier cette rhétorique qui mêle guerre et religion. Elle le fera condamner à 4 mois de prison ferme pour incitation à la violence, une peine qu'il saura utiliser pour se bâtir une image de martyr. Mais revenons-en à la récitation, à la poésie. Très jeune, Recep Tayyip Erdogan comprend instinctivement que c'est avec ce don, la parole, qu'il va pouvoir prendre l'ascendant sur les autres. À l'imam Hatip, il apprend l'art du prêche. Et la nuit, ses biographes racontent qu'il descend sur les rives du Bosphore, monte sur le pont de cargo désert et s'entraîne à déclamer, à plein poumon, mais ne s'adressant qu'au vide, aux vagues, aux mouettes.
Une voix est venue de l'invisible. Homme, laisse le vide errer sur ta nuque. Soudain, le toit s'est envolé de ta tête. Le ciel s'est écroulé et un malheur est arrivé.
Tayyip Erdogan est touché par la poésie.
Ahmet İnsel.
Par une poésie qui est, du point de vue littéraire, pas d'un grand niveau, d'un grand niveau, mais du point de vue de capacité à émouvoir des sentiments d'injustice, de créer un ressentiment, volonté de prendre sa vengeance. Ce sont des poésies de formule choc, je dirais, comme la fameuse phrase « Oh mon frère, tu es condamné à vivre étranger dans ton propre pays ». Ça, c'est une phrase choc qui a énormément marqué toute la jeunesse islamo-conservatrice.
Il paraît que dans ses meetings, il récite de la poésie, il fait appel à des vieilles histoires aussi ottomanes, islamiques.
Qui sont des histoires. Alors dans l'univers islamo-conservateur, l'univers est vraiment envahi de mythes, d'histoires, des références mythiques, comme on trouve ailleurs dans les discours populistes ou discours autoritaristes. Il y a une reconstruction de l'histoire, de la mémoire historique, à partir de beaucoup de mythes, d'épopées, et parfois des contre-vérités factuelles manifestes. Mais peu importe, ça fait plaisir à entendre pour les gens. En fait, les gens attendent d'entendre ses propos. Il cite beaucoup des poèmes dans son discours. Son rythme de parole est très proche des rythmes des prédicateurs. La sonorité, la musique, quand il parle, c'est vraiment une parole de prédicateur. Et donc, du coup, c'est efficace. Il a une voix qui porte. Tayyip Erdogan est un très bon orateur. Autrefois, il pouvait tenir pendant une heure, deux heures, des discours spontanés et faire vibrer son public dans les meetings qu'il faisait. Donc, techniquement, c'est un bon orateur. Et dans la tradition en Turquie, beaucoup d'orateurs, notamment dans le milieu conservateur, préfèrent envoyer les messages directement à l'émotion du public qu'à sa raison. C'est très difficile avec un discours très raisonné d'émouvoir les gens dans une manifestation. Et je pense qu'il n'a jamais envisagé de devenir imam ou prédicateur. C'est parce que l'immense majorité des gens qui font ces écoles d'imams et prédicateurs ne deviennent jamais imam et prédicateur. C'est un peu comme les écoles catholiques en France, si vous voulez. Ils ne deviennent pas prêtres ni bonnes sœurs. Mais ils ont cette aspiration. Et Tayyip Erdogan, manifestement, il se donnait dès sa jeunesse un rôle politique.
L'enfance, l'adolescence sont rudes. Sa famille n'est pas riche. Il raconte qu'il a dû très jeune travailler, vendre dans la rue des Simites ces petits pains qui ressemblent à des bretzels parsemés de sésame et qu'on trouve ici à tous les coins de rue. Le foot est un exutoire, mais son père le fait entrer à la municipalité où il va tout faire avant de grimper un à un les échelons. Sur son CV, pourtant, figure un diplôme, un bac plus 4 de la faculté des sciences économiques et administratives de l'université de Marmara, à Istanbul. Une formation que ses supporters mettent en avant pour justifier aujourd'hui ses choix en matière de politique économique, malgré son obsession à refuser d'augmenter les taux directeurs qui provoquent la spirale inflationniste que subit la Turquie. Ça, j'en avais parlé avec Can Dündar lorsque je l'avais vu à Berlin.
Il a dit qu'il était allé à une fac d'économie. He said he went to economic
university.
He said so, but we haven't found any.
Oui, c'est ce qu'il a dit, mais on n'a pas trouvé ses copains de fac. Il a plein d'amis dans la politique ou dans le foot, mais personne ne peut dire je suis allé à la fac dans sa classe.
No one could say that we were in the same class with him. That's strange, and that makes.
C'est étrange, et ça met un doute sur sa présidence. Car sans diplôme en Turquie, vous n'avez pas le droit légalement d'être président. Quoi qu'il en soit, il a fini par fournir un diplôme. Mais ça reste vraiment sujet à caution.
Comment il commence à s'intéresser à la politique, en fait?
At the age of 15, a big brother.
Quand il a eu 15 ans, un copain plus âgé l'a introduit dans une association étudiante, conservatrice, nationaliste, islamiste, très populaire à cette époque. Elle était anticommuniste, nationaliste donc, et ils se battaient dans la rue pour empêcher la Turquie de devenir un pays soviétique, c'est ce qu'il disait. Ils avaient de bonnes relations avec l'armée et les autres forces anticommunistes. Erdogan s'est retrouvé dans ce tourbillon de la fin des années 70 et il est entré donc dans cette organisation.
He started immediately to take side with this organization. And in his very first year, the guy who brought him to this association was killed in a bomb.
La première année, le garçon qui l'avait amené dans cette association a été tué dans un attentat à la bombe.
Turning point for Erdogan because he was really scared and at the same time.
Et ça a été le premier moment déterminant pour Erdogan. À la fois la peur, la colère. Il a été aux funérailles, immense. Ça l'a beaucoup politisé.
Cet homme, tué dans cet attentat, j'ai appris son nom, Mustafa Bilgi. Il est considéré comme un martyr, un héros par les islamistes turcs. Et à ce moment-là, Can Dündar s'est emparé de son livre. Il s'est mis à le feuilleter à toute vitesse et son doigt s'est arrêté sur une image.
Mustafa Bilgi.
Yeah, exactly. And there's the most impressive part in this book for me.
Dans le livre, ce qui m'a remué, c'est cette image, la tombe de Mustafa Bilgi. Dans cette image, regardez, on voit juste sa tombe et autour des gens, dont Erdogan. Et ce qui est important, c'est que ces gens, on connaît leur nom. À 15 ans, ils étaient là, avec Erdogan. Et quand il est devenu Premier ministre, 50 ans plus tard, ou presque,
they have become his ministers. So that showed us how,
ils sont devenus ses ministres. Et ça nous montre comment il a réussi à garder ces gens ensemble.
With a team spirit. And how they obey his.
Avec un esprit d'équipe, comment ils lui ont obéi ensuite. C'est une histoire qui, depuis 40 ans, est celle du mouvement islamiste en Turquie.
Le cercle des jeunes islamistes. Avec des gens comme Abdullah Gül, avec lequel il fondera l'AKP et qui deviendra président de Turquie. Le réseau de Rize, le berceau de la famille Erdogan sur la mer Noire. Tout se joue ici, dès le début, dans les rues toujours très populaires de Kasım Pasha.
Alors ici, à Kasım Pasha, il y a les vitrines. C'est pas trop les vitrines Prada ou Vuitton, des gens dans la rue. Bah là, ici, il y a des femmes voilées.
Avec ces villes, ma fixeuse, on s'est engouffré dans une courette entre deux magasins pour boire un thé.
Du thé? Allez. Dans un vrai café. On va prendre du thé. Là, on rentre dans une petite galerie et on va boire du thé. Ouais, on est dans le passe. Ouais, c'est parfait.
Normal.
Il me demande comment vous voudriez voter normal et plus foncé.
Normal.
Normal. Le voilà. Il revient avec un thé, une cigarette. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Claude.
My name is Claude.
diyor. Benim ismim Sevil. Sizin ismin?
Murat.
Murat Bey.
Murat. Le père de Murat et celui d'Erdogan se connaissaient bien. Murat est aussi employé municipal de la mairie d'arrondissement de Beyoğlu, dont sont originaires beaucoup de gens de Rizé. Comme le maire, d'ailleurs. Et à Murat, j'ai donc aussi demandé trois mots pour définir Erdogan.
Dürüst adam, adam çim adam.
Intègre, authentique.
Şimdi, şöyle diyeyim sana.
C'est un numéro 10, un champion, avec des valeurs héritées des siens, de là où il vient. C'est un don du ciel. Il nous faut remercier Dieu.
Murat n'est pas membre de l'AKP, mais il donne un coup de main pendant les campagnes électorales d'Erdogan. Parmi les grands succès qu'il lui attribue, un accès au système de santé qu'il a su développer. Les transports aussi, les routes, les grandes infrastructures. Pour lui, Erdogan a redonné sa place dans le monde à la Turquie.
Avant, quand ils allaient en visite dans les pays de l'Union européenne, nos présidents, nos premiers ministres se tenaient silencieux. La tête baissée, comme ça. Nous n'avons plus peur de parler maintenant. Pourquoi parle-t-on librement, alors qu'ils nous ont dirigés pendant des années? L'Europe nous a dirigés. Maintenant, nous nous gouvernons nous-mêmes. Les Européens nous disent, nous vous avons géré pendant des années, alors pourquoi ne pourrions-nous pas continuer à vous dicter votre conduite? C'est ça le problème. Dans le passé, il y avait la pauvreté, il y avait la privation. Enfin, comment vous dire, la Turquie n'est plus la vieille Turquie d'avant.
Avec Murat, on a parlé encore longtemps devant nos thés fumants. Il m'a raconté sa fierté d'avoir été de ceux qui ont affronté les mutins lors du coup d'État de 2016, lorsque Erdogan avait appelé la population à le soutenir face aux putschistes, des affrontements qui ont fait plus de 300 morts. En repartant, il a refusé que l'on paye noté. J'ai raconté cette rencontre à Marie-Pierre Véraud, l'envoyée spéciale permanente de Radio France à Istanbul, lorsque je l'ai retrouvée, un peu plus tard, près de la place Taksim, pour me parler de sa vision d'Erdogan.
Il a tellement de facettes, quoi. C'est une espèce de personnage difficile à cerner parce qu'il a tellement de facettes. On peut voir le musulman pieux, austère, celui qui, même quand il dirigeait son équipe de foot, quand il était gamin, était le seul qui ne souriait pas sur les photos, qui avait une espèce de discipline incroyable. C'est quelqu'un qui a une autodiscipline de fer. Et c'est pas un rigolo, quoi. C'est pas un fêtard. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un comme une rockstar qui peut soulever les foules en meeting, qui a le sens de la formule, qui peut faire de l'ironie ou de l'humour, qui peut faire chavirer les cœurs des femmes. On cherche à l'approcher, à le toucher. Donc il a aussi cette espèce de charisme incroyable. C'est un homme calculateur et froid, qui peut être extrêmement brutal avec ses opposants, sans aucune pitié.
Toi qui es ici sur place, correspondante donc de Radio France, est-ce que ton regard il a changé? Est-ce qu'on a une vision restrictive? Est-ce qu'on le sous-estime aussi?
Écoute, c'est ce qui m'a frappé, c'est effectivement, on a un prisme parfois en France, sans doute des œillères, où on le voit comme un leader islamiste. C'est un peu pratique, hein, on est dans cette Turquie orientale, on est face à une espèce de dictateur, et en plus il est musulman. Donc boum, il a cette étiquette d'islamiste. Bien sûr, il a couvert le pays d'imam hatib, de mosquées. Bien sûr, il veut, et il le dit, créer une société pieuse, où les femmes sont des mères avant tout. Mais c'est surtout, avant tout, un homme pragmatique de pouvoir, un politique instinctif, très habile, très retors, rancunier, avec tout un tas de caractéristiques.
Si tu devais me faire une photographie là, de la Turquie aujourd'hui, sous 20 ans d'Erdogan, comment il va, ce pays ?
Écoute, il est fatigué. Il y a une partie du pays qui ne cherche qu'une chose, c'est fuir. Ça, ce sont, bon, beaucoup de gens sont déjà partis en exil forcé, hein, des intellectuels, des opposants, etc. Mais une partie de la classe moyenne qui a tout perdu en 20 ans, tout ce qu'Erdogan avait pu lui donner, qui avait accédé à la propriété, qui commençait à voyager, qui se développait, qui vivait beaucoup mieux. Le pays sous lui s'est doté d'infrastructures, une classe moyenne a émergé. Toute cette classe-là, aujourd'hui, vient de perdre à cause d'une hyperinflation, d'une crise économique terrible, hein, qui l'a mise à genoux, ce qu'elle avait pu gagner. Donc, il y a une partie de l'élite qui fuit, les médecins, les ingénieurs, les diplômés, la richesse de ce pays. Donc c'est un pays qui se vide de ses forces les plus précieuses. Et Erdogan s'en fiche, il leur dit « mais qu'il s'en aille, vous voulez partir, partez ». Et c'est aussi quelqu'un qui s'est enfermé petit à petit. Beaucoup d'anciens alliés l'ont quitté, ils sont aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce que par ses succès, au bout de 20 ans, finalement, c'est trop, ça lui est monté à la tête, il s'est enfermé dans son propre personnage, et il a une pratique très solitaire du pouvoir. Il n'y a plus de Premier ministre ici, il n'y a plus de Parlement, il gouverne par décret-loi. Et dans cet immense palais de milliers de pièces, de marbre froid, il est seul, souvent. Les gens tremblent, il fait peur. Il est aussi celui qui, maintenant, et ses proches en tout cas le disent avec fierté, a régné plus longtemps qu'Atatürk, que le père des Turcs sur la Turquie. Mais il cherche sans doute à le supplanter, non pas à effacer sa mémoire, mais à le supplanter dans le cœur des Turcs.
Aziz Atatürk.
Cher Atatürk, nous vous rendons hommage avec la bénédiction d'Allah à l'occasion du 80e anniversaire de votre disparition. Vous, le généralissime de la guerre d'indépendance et fondateur de notre République, nous avançons d'un pas sûr sur la voie qui fera de la Turquie, héritée de votre grandeur et de nos chers et vénérés martyrs, l'un des pays les plus puissants et les plus prospères qui soit, en dépit des agressions de ses ennemis intérieurs et extérieurs.
Surpasser et remplacer Atatürk dans l'histoire, redonner à la Turquie la place et l'influence qu'elle avait au temps de l'Empire, le rêve de Recep Tayyip Erdogan. On en parle au prochain épisode. Erdogan, la tentation de l'Empire, est un podcast original de France Inter en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France.